Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Dans 30 minutes, ce sera le débat du jour. Nous parlerons de la dégradation du climat sécuritaire en Centrafrique. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les attaques se multiplient, principalement dans le centre du pays, obligeant souvent les populations à fuir leur village. Les ONG humanitaires, également prises pour cible, ont dû même réduire leurs activités. Alors, comment expliquer cette recrudescence des violences? Vos témoignages, évidemment, vous qui êtes sur place, nous intéresse. En tout cas, c'est dans ce contexte bien précis que dans deux semaines, la France va officiellement mettre fin à son opération militaire Sangaris. La France va donc laisser aux 12 000 casques bleus la charge de sécuriser le pays. Des casques bleus, d'ailleurs, bien souvent critiqués par les populations. Alors dites-nous si le départ des militaires français risque d'accroître l'insécurité. On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Comment restaurer la paix en Centrafrique. Vos réactions également sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec l'opération de reconquête de Mossoul en Irak, une opération qui a débuté il y a maintenant 48 heures. Bonjour Souleyman.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de la région de Kaolack, vous êtes au Sénégal, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan et bonjour à toute la rédaction des RFI.
On vous écoute.
Oui, j'avais deux questions. Est-ce que la reprise de Mossoul par les forces irakiennes va-t-elle signer la fin du groupe État islamique en Irak?
Alors, Mossoul, le dernier bastion de l'organisation de l'État islamique en Irak. La prise de Mossoul sera-t-elle effectivement une étape décisive? Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Mossoul, on le dit et on le répète, est la plus importante ville que l'organisation de l'État islamique contrôle en Irak. Est-ce que la reprise de Mossoul signifiera la fin de l'État islamique?
Alors, ça dépend de quoi on parle, évidemment, parce que le groupe État islamique, c'est à la fois aujourd'hui une entité administrative qui contrôle un territoire et c'est aussi un groupe terroriste. Alors si on parle de l'entité étatique ou pseudo-étatique qui contrôle un territoire, évidemment la perte de Mossoul, ce serait un coup très dur, ce serait la fin du groupe État islamique en tant qu'entité administrative, en tout cas en Irak. Parce que Mossoul, vous l'avez dit, c'est la dernière grande ville que contrôle ce groupe sur le territoire irakien, même s'il contrôle encore une localité entre Mossoul et la frontière syrienne. On peut dire que si Mossoul tombe, c'en est fini du territoire contrôlé par l'organisation de l'État islamique en Irak.
Ouais, et si l'on parle justement du groupe terroriste en tant que tel?
Alors le groupe terroriste, là, c'est différent. D'abord parce que une grande partie de ces combattants qui sont à Mossoul pourraient s'échapper de la ville et gagner justement l'autre côté de la frontière et s'échapper en Syrie où le groupe contrôle toujours un territoire important. Ça va dépendre de la bataille, ça va dépendre aussi de l'encerclement de Mossoul qui est en train d'être opéré. Et on verra si ces combattants djihadistes, ils vont rester jusqu'au bout à Mossoul ou s'ils vont pouvoir s'échapper. De toute façon, même si Mossoul est capturé, même si un très grand nombre ou la plupart des combattants sont tués ou faits prisonniers, le groupe terroriste en tant que tel ne va pas disparaître. Ce groupe existait avant la prise de Mossoul. Il est capable de fonctionner en clandestinité comme il le faisait avant. Il est capable de commettre des attentats, de commettre des enlèvements. On en a vu un exemple dramatique récemment à Bagdad avec ce terrible attentat qui avait fait plusieurs centaines de morts. Si Mossoul est prise, il est certain que le groupe État islamique va continuer à exister en tant que force terroriste, surtout si la population sunnite continue à se sentir discriminée. En Irak, la bataille de Mossoul, ça ne sera pas la fin de cette discrimination, à moins évidemment qu'il y ait une sorte de révolution politique en Irak et que le gouvernement central parvienne à tendre la main à ces sunnites qui constituent le vivier tout de même de ce groupe de l'État islamique.
Ouais, la bataille devrait être longue et difficile. Elle va probablement durer des semaines, possiblement plus, a déclaré lundi le nouveau commandant de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. On peut donc s'attendre à plusieurs mois de combat. Vous avez d'autres questions?
Oui, la seconde question, Juan, c'est qu'on a constaté que les Américains sont en train d'appuyer les forces irakiennes pour la reprise de Mossoul. Alors, qu'en est-il des risques qui combattent ce même groupe en Syrie?
Alors, les Russes, effectivement, ils sont absents et forcément, ils n'interviennent pas en Irak, Daniel Valo.
Oui, effectivement, les Russes ne font pas partie de la coalition qui a été montée par les États-Unis pour combattre le groupe État islamique en Irak. Faut bien faire la distinction. Les Russes sont en Syrie, effectivement, mais ils sont en Syrie à l'appel de Bachar al-Assad. Et même si de temps en temps, ils frappent l'organisation de l'État islamique en Syrie, la plupart du temps, ils aident, en fait, l'armée syrienne. Donc, il n'est pas du tout question que les Russes interviennent en Irak. En Irak, on a comme acteur étranger au conflit, on a les États-Unis, bien évidemment, les pays arabes et occidentaux qui soutiennent les États-Unis au sein de la coalition. Il y a l'Iran qui soutient les milices chiites, et il y a la Turquie également directement présente, puisque la Turquie a déployé des hommes près de Mossoul. La Russie n'est pas présente directement sur le théâtre militaire irakien.
Merci beaucoup, Daniel Valo. Bonne journée, Souleymane. Vous nous appeliez de Bandoulou, très exactement, donc dans la région de Kaolack, au Sénégal, où il est 8h16. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Bonjour Eugène. Eugène qui est au Togo. Ah, on me fait signe qu'on vient juste à l'instant de perdre Eugène au Togo. On va essayer de le rappeler. Eugène qui avait des questions sur la lutte contre l'insécurité maritime. Vous savez qu'il y a quelques jours, à Lomé, dans la capitale togolaise, l'Union africaine avait organisé un sommet pour lutter contre la piraterie maritime. Eugène, bonjour.
Et bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, donc Juan, la semaine dernière, le Togo a organisé le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. À la fin de ce sommet, une charte a été adoptée par plusieurs pays. Certains se sont abstus ou n'ont pas envoyé de représentants à Lomé, d'autres ont voté contre. Juan, je voudrais savoir qu'est-ce que cette charte propose de nouveau pour la lutte contre la piraterie maritime.
Ah, ça c'est une bonne question, d'autant que cette charte sur la sécurité maritime est une première mondiale. Alors on focalise beaucoup sur la lutte contre la piraterie maritime, mais il a aussi été question de la lutte contre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains sur les côtes africaines. Bonjour Anne Cantner.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial des RFI à Lomé. Vous avez suivi donc ce sommet organisé dans la capitale togolaise. C'est un document inédit qui a été signé il y a quelques jours. Que stipule-t-il, que prévoit-il exactement pour lutter contre la piraterie maritime?
Oui, d'abord, le texte est contraignant. Ça, c'est nouveau et c'était le principal objectif du Togo qui est à l'origine du texte, un texte qui préparait depuis des mois. Les pays signataires s'engagent par exemple à échanger davantage d'informations, à se prévenir mutuellement en cas d'attaque. Et d'ailleurs, la charte crée un comité qui est censé suivre la mise en application du texte. Et il sera composé de 15 États venus de toutes les régions du continent et présidé par le Togo, justement. Et les membres seront désignés pour 3 ans, élus pour 3 ans. Mmh. Dans le texte, les pays s'engagent aussi à délimiter leurs frontières maritimes. C'est important, car il existe aujourd'hui encore plusieurs conflits entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple, qui ont saisi la justice internationale. Et puis le Togo et le Bénin contestent aussi le tracé des frontières maritimes avec le Ghana et le Nigeria, et on sait que des discussions sont en cours. Autre nouveauté, excusez-moi, c'est la création d'un fonds pour financer les opérations, mais voilà, pour l'instant, ça crée une structure juridique pour un fonds.
Oui, un fonds. D'ailleurs, on ne sait pas comment il sera alimenté et on ne sait pas à combien s'élèvera ce fonds. On a un peu l'impression tout de même, Anne Cantner, même si cette charte est historique, on a un peu l'impression que le texte est assez flou.
Oui, en fait, il reste vraiment beaucoup de zones. Ça prévoit peu de choses très concrètes. Mais ça, c'est pas très important. En tout cas, c'est ce qu'expliquent les défenseurs de la charte. Cette charte, c'est un texte juridique qui établit des bases, des objectifs. Mais effectivement, il y a certains points qui auraient pu être mieux précisés. En tout cas, c'est ce que pensent certains pays. Par exemple, la charte ne fixe pas de sanctions. Elle permet aux États de régler des éventuels litiges à venir à l'amiable. ce qui n'était pas l'ambition de départ des auteurs de la charte. Ils auraient aimé un texte un peu plus dur.
Oui, un peu plus dur, effectivement. En tout cas, la sécurité maritime est un impératif pour le continent. Quand on sait que sur les 54 pays africains, 38 ont une frontière maritime et 90% des échanges commerciaux sur le continent passent par la mer. Vous avez d'autres questions, Eugène ?
Oui, Juan, je voudrais savoir pourquoi les autres pays ont-ils refusé de signer cette charte ? Et ce refus des autres pays de signer cette charte nous constitue-t-il pas?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon avec le Togo, ni avec vous, Eugène, vous nous appelez à Fagnan, ni avec Anne Cantner, qui elle est dans la capitale à Lomé. Mais la question est pertinente. Anne, je disais à l'instant, la sécurité maritime est un impératif, une priorité tout de même pour le continent africain. Pourtant, sur les 53 pays représentés à Lomé, seuls 31 l'ont signé. Alors, comment expliquer que cette charte, finalement, ne fasse pas l'unanimité?
Plusieurs pays ont des réserves sur certains points, pas forcément les mêmes. Le Sénégal, par exemple, considère que c'est une bonne base juridique, mais qu'il faudrait harmoniser son contenu avec d'autres lois qui existent déjà, notamment à propos des sanctions, justement. Et puis le Cameroun, alors officiellement, le Cameroun n'a fait aucune déclaration. Eugène disait qu'il y avait certains pays qui n'étaient pas représentés. En fait, la plupart étaient représentés, mais le Cameroun, par exemple, le président du Cameroun ne s'est pas déplacé alors que le pays avait quand même accueilli un grand sommet sur la piraterie il y a 3 ans. Le Cameroun n'a pas fait de déclaration, mais en fait, il y a 3 ans, un processus avait été mis en place à Yaoundé et plusieurs analystes pensent aujourd'hui que le Cameroun a peut-être un peu mal pris le fait que ce processus soit un peu oublié pour laisser la place à la charte de Lomé.
Ouais, effectivement. Maintenant, il reste évidemment à tous les pays qui ont signé le texte de le ratifier. Il faut au moins une quinzaine de pays pour que cette charte maritime puisse entrer en vigueur. Merci beaucoup, Anne Cantner, d'avoir été avec nous en direct de Lomé. Eugène, bonne journée. Vos questions, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de nous contacter par téléphone. Eh bien, envoyez-nous vos coordonnées directement sur la page Facebook de l'émission. On vous rappelle et vous passez évidemment en direct sur l'antenne d'RFI. Bonjour Norbert.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions sur la libération de 21 des 276 lycéennes enlevées il y a maintenant plus de 2 ans à Chibok au Nigeria, un enlèvement revendiqué par Boko Haram.
Oui. Bon, j'ai deux questions. La première, c'est de comment sont parvenues les autorités libyennes à la libération de ces 21 lycéennes?
Ah, comment les autorités ont-elles réussi à libérer ces 21 lycéennes? C'est une bonne question. On ne sait pas grand-chose finalement sur les conditions de ces libérations. Y a-t-il eu le paiement d'une rançon ou un échange, comme l'affirment d'ailleurs plusieurs sources? Michel Lutumbu est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au GRIP, au Groupement de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité. À entendre la présidence du Nigeria, il n'y a eu aucun accord avec Boko Haram. La présidence du Nigeria qui s'est contentée d'affirmer que cette libération est le résultat de négociations entre l'administration nigériane et Boko Haram par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse. Alors avez-vous des informations supplémentaires ?
Non, les seules informations disponibles, effectivement, sont celles-là, que cette libération est intervenue dans le cadre d'une médiation assurée par le gouvernement suisse, qui avait fourni des négociateurs, avec aussi un appui de la Croix-Rouge. Donc, il y a des indices, en fait, qui indiquent que les otages ont été libérés, sans doute contre l'échange des prisonniers de Boko Haram, comme par le passé. Le gouvernement nigérian avait déjà procédé à des échanges de prisonniers, des militaires essentiellement, contre la libération de combattants de Boko Haram ou de leur famille.
Là, cette fois-ci, on parle de la libération de 4 combattants de Boko Haram dans la ville de Banki, donc à la frontière du Cameroun. Information évidemment démentie par les autorités nigérianes.
C'est pour des raisons évidemment, évidentes de sécurité, que les modalités de ces libérations ne seront pas communiquées, en tout cas dans l'immédiat, hein, pour ne pas compromettre la libération des autres otages encore détenus par Boko Haram.
Allez, Norbert a d'autres questions. Norbert.
Oui. Bon, j'aimerais savoir aussi, est-ce une faiblesse de la part du groupe islamique Boko Haram
d'avoir libéré ces 21 filles?
Oui, ça va libérer certaines.
Michel Lotumboué, ça c'est une bonne question. Boko Haram qui libère maintenant 21 lycéennes, est-ce un aveu de faiblesse? Parce que forcément il y a des négociations. Que peut-on répondre à Norbert?
Il y a deux aspects sans doute à cette question. Hein. Le mouvement Boko Haram n'a jamais été un mouvement homogène, unitaire. Il est composé de cellules parfois indépendantes. Et on sait que depuis ces derniers mois, le mouvement a connu des dissensions. Il serait même fracturé en deux ou trois factions qui s'opposent sur la question des liens avec l'État islamique. Abu Moussab al-Barnaoui est le nouveau leader qui remplace Aboubakar Chekaou, qui est remis en question notamment sur l'utilisation des femmes kamikazes et le ciblage de musulmans. Donc il est mis à l'écart, il y a des dissensions au sein du mouvement.
Ouais. Et on sait, excusez-moi, mais Michel Lotumboué, vous le disiez à l'instant, Boko Haram est divisé par des conflits internes. Sait-on quelle faction détient aujourd'hui ces lycéennes? Est-ce que c'est la faction dirigée par Aboubakar Chekaou, le leader historique qui n'est plus le leader, ou par l'autre faction?
Il est probable qu'une partie des lycéennes, en tout cas, soit encore détenue par la faction de Aboubakar Chekaou, qu'on dit à court de combattants, d'arsenal. Et la négociation, dans ce cas, revêt alors une importance stratégique pour la faction Aboubakar Chekaou. C'est une manière, en fait, de reconstituer les moyens de poursuivre la lutte.
Ouais.
On sait qu'un groupe comme ACMI avait tiré l'essentiel de ses ressources des prises d'otages et du versement des rançons. Ça peut être une nouvelle stratégie. En fait.
Merci Michel Lotumboué d'avoir été en direct avec nous ce matin sur l'antenne d'RFI. On va terminer avec une question concernant le Brexit. Nous sommes à 6 mois du début des négociations avec Bruxelles. Ça suscite encore et toujours des questions au standard. Bonjour Désiré.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute.
Oui, le Brexit est en train d'être discuté au Royaume-Uni, alors que ce dernier représentait le quart des dépenses de défense de l'Union européenne. Je m'en vais demander quelle sera la politique de défense de l'Europe après le Brexit.
Ah, bonne question. Quel impact le Brexit aura-t-il sur la défense européenne? Olivier de France, bonjour. Olivier de France, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, on vous entend. Ça y est, okay. on a appuyé sur le bon bouton. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Union Européenne. D'abord, il faut quand même rappeler à notre auditeur et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce concept de défense européenne n'a jamais vraiment été la tasse de thé des Britanniques.
Non, c'est ça. C'est-à-dire que les Britanniques ont toujours considéré l'Union Européenne comme un forum, si vous voulez, qui serait susceptible de défendre leurs intérêts, dans lequel ils sont susceptibles de promouvoir et de défendre leurs intérêts. Ils n'ont pas de vision politique de l'Union Européenne ou de vision véritablement stratégique du rôle de l'Union Européenne dans le monde, comme pourrait l'avoir la France ou l'Allemagne, par exemple.
Donc ils étaient jusqu'à présent, on peut dire, un facteur de blocage dans ce processus de défense européenne?
Alors, pas tout à fait, parce que si vous regardez, la manière dont tout ce projet de défense européenne a débuté concrètement, c'était en 98, sous Chirac, c'était le traité de Saint-Malo. Et c'était, si vous voulez, le moment où Jospin et Tony Blair s'étaient mis d'accord. Tony Blair s'était dit, bon, on a raté le train de l'euro, on va essayer de s'investir sur un projet européen. Et donc les Britanniques étaient là au début de ce projet de défense européenne. Après, il est vrai que ils ont été un point de blocage sur des choses comme, par exemple, se doter d'un QG opérationnel permanent pour ne pas dupliquer ce qu'il y avait dans l'OTAN. Et donc, sur les points qui ne représentaient pas leurs intérêts, ils ont effectivement plutôt été des facteurs bloquants. Il faut quand même noter que désormais, maintenant que les Britanniques ne sont plus forcément dans la salle et que ces discussions, en fait, se font entre Européens sans les Britanniques, il y a quand même quelques Européens qui se cachaient notoirement derrière le petit doigt britannique. Et sur cette question technique, par exemple, du QG opérationnel permanent, les Suédois, les Estoniens, les Néerlandais se sont réveillés pour dire « Ah bah finalement, nous non plus, on n'en veut pas. »
Ah, donc, d'accord. Donc voilà. Ça veut dire que ce nouveau contexte, ce Brexit, ne va pas forcément permettre de relancer la politique européenne de défense. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, puisque les négociations n'ont pas encore commencé. Point de départ des négociations prévues fin mars 2017. Merci Olivier de France. Désiré, bonne journée à à vous. Vous restez évidemment à l'écoute des RFI dans un instant. Le journal et on revient dans 10 minutes. On parlera ensemble de la dégradation sécuritaire en Centrafrique.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.